If you have your smartphones,
si vous avez vos téléphones portables ou vos Bibles, vous pouvez ouvrir à 1 Pierre chapitre 3. On étudie 1 Pierre ensemble. Si vous êtes avec nous, ça vous donne un peu de contexte. Si je vais vous donner un petit peu de contexte si vous n'avez pas été ici depuis quelques semaines. C'est un livre incroyable, 1 Pierre. C'est un livre qui a été écrit à des chrétiens qui avaient du mal à vivre leur vie chrétienne, là où ils habitaient. Et dans le premier livre de Pierre, au verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc nous sommes nés de nouveau par son esprit et on a un héritage incroyable qui nous attend. Dieu nous a donné une nouvelle vie, une vie de résurrection avec Jésus-Christ, une résurrection des morts. C'est quelque chose d'incroyable. Et maintenant, nous sommes ici et on a un appel particulier. Nous sommes appelés de différentes manières, comme une race élue, un peuple élu, nous avons cette relation incroyable avec Dieu. On nous donne une identité en lui et on a un appel, une mission, quelque chose qu'on est censé faire. Quelle est cette mission? Nous sommes censés faire des sacrifices spirituels agréables à Dieu. La réponse appropriée pour ce que Dieu a fait pour nous, c'est de le louer. C'est d'adorer son nom et se mettre à ses pieds et de dire « Dieu, tu es digne, tu es digne. » Pas seulement ça, nous sommes censés proclamer les choses exceptionnelles, excellentes qu'il a faites. Nous sommes ici pour être des témoins. Nous devons proclamer qui il est pour que les autres puissent le voir. Pour que d'autres puissent le voir. Donc nous avons cette responsabilité. Nous avons cet appel. La question ensuite est la suivante. Comment devons-nous vivre? On a déjà étudié ça. Donc, on nous demande de nous abstenir des passions de la chair. Et il nous dit aussi de vivre des vies honorables pour que les autres personnes soient attirées vers Jésus. Vivre des vies honorables. C'est ce qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie honorable? Alors, c'est les dernières semaines ce qu'on a vu. Donc, il parlait des relations avec le gouvernement, de nos relations avec notre patron, nos relations en tant que conjoint, entre mari et femme. Donc à quoi est-ce que ça ressemble de vivre des vies honorables, agréables à Dieu? Donc c'est ce qu'on a étudié les dernières semaines. Et maintenant, on va voir 1 Pierre 3, il va parler de façon plus générale. Et il dit finalement, soyez unis dans l'esprit, ayez de la sympathie, un amour fraternel, la compassion, la bienveillance, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Il commence par dire, commence ce paragraphe en disant, c'est à ça que ressemble la vie que les chrétiens doivent mener. Donc, ayez le même esprit. Ayez l'esprit du Christ, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et une des choses dont on parle dans les relations à l'Église, on vient de différentes cultures, on parle différentes langues. On vit le miracle de l'unité. Alors que nous cherchons Christ ensemble, nous sommes unis, nous sommes un. C'est un miracle. C'est le miracle que Dieu a fait au milieu de nous. Donc pas seulement cela, mais on doit avoir de la bienveillance, de la compassion, de ressentir les douleurs des autres, de ressentir la joie des autres, d'être orienté vers les autres, de penser aux autres, de s'occuper des autres. On devrait avoir cette connexion. Donc Dieu nous demande de montrer de la bienveillance, de la compassion. Alors, l'amour fraternel, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui supporte, qui soutient les autres. Parfois, à l'arrière des voitures, nos deux fils, ils se chamaillaient, ils se tapaient dessus. Pas de ça dont je parle. Hein. Mes deux fils, ils se protégeaient les uns les autres. Ils s'occupaient l'un de l'autre. Ils s'aidaient l'un l'autre. Nous sommes appelés à faire cela, les uns pour les autres. On est appelé à avoir des bienveillants, avoir un cœur tendre, pas être indifférent. Nous sommes appelés à avoir un esprit humble. Je pense que toutes ces caractéristiques peuvent être difficiles parce que souvent, les situations dans lesquelles nous sommes, on se dit, mais je devrais me conduire, mais pas comme ça. Quand quelqu'un nous fait du mal, c'est facile de ne pas être sympa. Quand tout va bien, c'est facile de ne pas être humble. C'est facile quand tout va bien de se dire « Ah, mais moi, je sais comment ça marche. » Je réfléchissais ce matin, donc je priais, je me préparais pour l'église. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit humble? Est-ce que vous êtes venu ici vous attendre, en attendant à ce qu'un de vos frères ou de vos sœurs ait quelque chose à vous dire, qui puisse vous aider? Est-ce que vous êtes venu avec cette attitude que peut-être quelqu'un a quelque chose à vous donner? Souvent, on vient avec l'attitude qu'on va juste s'asseoir Et on va critiquer, peut-être, on va comment c'était aujourd'hui, on va donner une note. C'est pas une attitude humble. Ça, c'est pas un esprit humble. Moi, je trouve que ces cinq qualités sont difficiles. Parce que souvent, les circonstances dans lesquelles je me trouve ne rendent pas... C'est pas facile de faire cela. Et souvent, j'ai plutôt tendance à réagir de la façon inverse. Quand on me fait du mal, je n'ai pas envie de réagir avec la bénédiction. Je n'ai pas envie de réagir avec l'amour. J'ai envie de réagir avec... J'ai envie de me défendre. J'ai envie de commencer une guerre ou de m'échapper, tout simplement. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de me laisser faire. Je n'ai pas forcément envie, naturellement, de vivre comme Jésus me le demande. Et vous, comment est-ce que vous faites ? Alors que vous êtes assis ce matin, vous dites que vous avez un cœur tendre. Est-ce que vous avez la compassion pour les autres ? Ou est-ce que vous êtes là, pensez juste à vous-même ? Comment est-ce que vous faites ça ? Comment est-ce que vous vivez une vie que Dieu veut qu'on vive ? Comment est-ce possible de vivre avec ces qualités-là ? Dans la bénédiction de Dieu et s'attendre à recevoir son héritage. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde avec la bénédiction de Dieu sur nos vies et comment peut-on anticiper l'héritage glorieux qui viendra? Je trouve ça fascinant quand Pierre, dans ce passage, tout ce passage repose en fait sur Psaume 34. Il dit la chose suivante, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez. Vous le savez, c'est cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Donc, dans le psaume 34, c'est un des psaumes. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu sur la vie de David. Le passage dont je parle, c'est dans 1 Samuel. Vous avez peut-être lire 1 Samuel cette semaine. C'est une histoire fascinante. Israël a choisi son premier roi, ce roi qui s'appelle Saul. Mais Saul ne gère pas bien sa royauté et Dieu rejette Saul en tant que roi. Et il cherche un nouveau roi. Et il trouve en train de s'occuper des moutons. Un futur roi qui s'occupe des moutons. Avec une guitare qui s'occupe des moutons. C'est un musicien. Il passe ses journées à s'occuper des moutons et à louer Dieu. Et Dieu dit, ça c'est l'homme que je veux choisir comme roi. Et le prophète Samuel le choisit. Et en même temps, l'onction de Dieu a abandonné Saul. La bénédiction n'est plus sur la vie de Saul. Saul réalise que Dieu l'a abandonné. Et il est dit que, en fait, un esprit mauvais le tourmentait Saul. Et une des... Et un des serviteurs du roi dit, tiens, il y a ce musicien-là, peut-être qu'il pourrait chanter pour toi. Son nom est David. Et David se retrouve, il sait déjà auparavant ce qui sera le futur roi, mais il sait qu'il va donc il est appelé à être musicien pour le roi Saul. Il le sert, il est reconnaissant. Et quand vous lisez ce qui se passe, Saul devient de plus en plus jaloux de David. Et à un point, il lui envoie même un javelot, donc une lance, alors qu'il est en train de chanter. Alors, il essaie de le tuer, en gros. Où est la bénédiction de Dieu dans cette situation ? Donc j'essaie de, David a dû se dire, mais j'essaie de vivre une vie honorable. Je sais que j'ai cet héritage, un jour je vais devenir roi, mais je vais juste vivre une vie honorable et attendre que Dieu agisse. Et finalement, David doit fuir pour garder sa vie. Et Saul le poursuit. Et il doit fuir encore et encore. Il y a plusieurs situations où il peut tuer son ennemi, Saul, mais il ne le fait pas. Et alors il dit à Saul, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait comme mal? Je t'ai servi de manière honorable. À travers cette période difficile, David dépend de Dieu, fait confiance à Dieu. À un moment, il se retrouve dans le pays étranger. Il doit fuir dans le pays étranger. Et David prétend, fait semblant d'être fou. Et il bave. Et alors il dit, mais ce gars, il est fou. Laisse-le partir. Et en fait, après ça, cet homme qui s'attendait à être roi, donc, psaume 34, donc David se réjouit de la délivrance de Dieu. Il dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté à l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. David commence par nous encourager. Il a vécu personnellement la délivrance de Dieu. Il a vécu personnellement la protection de Dieu. Et donc il nous invite à louer Dieu qui est le libérateur. C'est une des choses que j'aime faire avec vous, c'est louer Dieu et dire que Dieu est notre libérateur. Et d'entendre vos expériences, vos histoires, comment Dieu vous a délivré dans certaines situations. Comment est-ce que Dieu vous a permis de surmonter des temps difficiles, quand les journées étaient sombres, mais Dieu vous a aidé à surmonter ces difficultés. Il est votre libérateur, il vous... Et donc, David nous encourage à nous réjouissons dans la libération de Dieu. Donc ensuite, il explique ce que ça signifie de craindre Dieu. Il est dit au verset 11, je vais vous enseigner ce que c'est la crainte de Dieu. Donc, garde ta langue, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Donc, ça, c'est le verset 14. David a eu l'opportunité de commettre un meurtre. Il avait l'opportunité de tuer le roi Saul. Cet homme le poursuivait. Il n'avait rien fait de mal. Il avait l'opportunité de tuer son ennemi. Il ne l'a pas fait. Il lui a fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu et au fait que Dieu pouvait le libérer. Dieu, tu peux gérer ça. Tu peux gérer ce problème. Je n'ai pas besoin de faire du mal. Tu peux réaliser ta volonté de ta propre manière. Verset 15, il est dit, détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. On peut faire confiance au Dieu qui, au milieu des grandes difficultés, quand on a l'esprit abattu, on peut faire confiance à Dieu. On peut continuer de lui faire confiance. Et ensuite, il nous invite, versets 8 à 10, on est un petit peu en arrière. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. L'équipe de louanges. Tout ce que nous sommes sont des serviteurs, comme au restaurant. On peut décrire le repas, le plat. On peut vous dire à quoi ça ressemble, le goût, mais on ne peut pas le goûter pour vous, le plat. On ne peut pas. On peut vous donner une description qui vous donne envie, mais vous devez décider de goûter. Vous devez décider de le vivre. Vous devez dire, Seigneur, je veux cela. Seigneur, j'ai faim. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Et le Seigneur répond, venez, buvez, venez et mangez. Je vous donnerai la meilleure nourriture. Venez vers moi au milieu de ce qui se passe dans vos vies. Venez et ressentez et vivez ce qu'il y a en moi. Pouvez-vous dire, j'ai goûté la bonté de Dieu. Pouvez-vous dire, je bois des courants d'eau qui viennent de Dieu. Ou alors, est-ce que votre vie est sèche et vide? Venez à lui. venez à lui. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Certains d'entre vous, vous avez goûté la bonté de Dieu. Certains d'entre vous, vous savez exactement de quoi je parle. Vous avez vécu ça. Mais si vous êtes honnête vraiment maintenant, si vous êtes honnête, ce goût est peut-être quelque chose de très lointain maintenant. Ce goût, c'est quelque chose. Vous aimez ce goût, mais ça fait longtemps que vous n'avez plus vécu ça. Et vous passez votre vie, vous avez des difficultés, et vous dites, qu'est-ce que serait d'être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites alors? D'abord, vous devez être honnête. Vous devez être honnête sur la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Ça n'a rien de faire semblant. C'est pas la peine de dire tout va bien, loué soit Dieu, alléluia. Je vais essayer d'être heureux. Non. Si vous êtes vide à l'intérieur, vous devez réaliser que quoi que vous fassiez, ça vous a éloigné de goûter la bonté de Dieu. Je vais répéter ça. Quoi que vous fassiez, ça vous a éloigné de Dieu. Et votre vie va être de plus en plus sèche, vide, jusqu'à ce que vous ayez vraiment la volonté de faire ce que Dieu dit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Certains d'entre vous, vous avez connu Dieu depuis longtemps. C'est quelque chose d'humble pour quelqu'un qui fait partie de l'Église depuis des événements chrétiens depuis longtemps, de dire quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. J'ai vécu une vie chrétienne en fonction de mes expériences. J'ai suivi ce qu'on m'a enseigné. Mais je n'ai pas réellement été connecté à la source de la vie. C'est quelque chose de très courageux de faire ça. Mais ça montre que vous retournez à la crainte du Seigneur. Et ça, c'est ce que David nous encourage à faire. De vivre dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire que rien n'est plus important que d'être dans la présence de Dieu. Votre réputation n'est pas importante. Votre position dans la société, ce qui est important, c'est sa présence, la présence de Dieu. Rien n'est plus important que la présence de Dieu. Rien d'autre va pouvoir satisfaire votre âme. Donc, vous pouvez de nouveau goûter qu'il est bon et qu'il peut satisfaire votre cœur. Et il va tout bouger, tout déplacer pour que ça se passe comme ça. Si c'est, par exemple, la confession des péchés, vous avez confessé vos péchés. Peu importe ce qui vous empêche, ce qui vous bloque, il va changer cela. Parce que ce que vous devez désirer, c'est la présence satisfaisante de Dieu dans votre vie. Et quand vous vous sentez un peu détruit et que vous retournez à la crainte de Dieu, David dit, il sait quand vous faites confiance à Dieu en premier pour qu'il vous soit votre libérateur, dans ce cas, votre ennemi, et si votre ennemi vous fait du mal, vous pouvez le bénir, vous êtes capable de le bénir. Quand vous êtes nourri par la vie de Dieu, dans ce cas, vous allez avoir la bienveillance, David sait que quand vous êtes rempli de l'amour du Christ, vous avez un amour incroyable pour les gens. David sait cela. Et donc il dit, voyez que Dieu est bon, parce que le Seigneur, pour ceux qui le craignent, est-ce que vous êtes rempli de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous ressentez sa présence? Ou soyez vraiment honnête. Est-ce que vous vous sentez vide ou... Père? Il y a beaucoup, le juste est touché par beaucoup d'injustices, et le juste est souvent blessé, mais c'est seulement en étant dans ta présence, c'est seulement en goûtant, et en buvant, et en mangeant de ta présence, qu'on peut marcher dans la bénédiction. Qu'on peut marcher dans ton amour, de ta grâce. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sentent cet appel où le feu de l'amour de Dieu a brûlé un certain temps. Seigneur, je prie que ces personnes puissent se retourner vers toi. Que quoi, peu importe ce qui a capturé leur âme, Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur d'être vrais, réels. Ceux qui ont peur de ce que les autres vont dire. Peur de ce que toi tu penses. Je prie pour que tu leur fasses ressentir ton amour, ta compassion. Qu'ils puissent boire de ton courant rafraîchissant, courant d'eau rafraîchissant, ton esprit. Qu'ils n'aient pas peur. Seigneur, nous voulons être un peuple qui vit dans ta présence. On ne veut pas jouer à des jeux, à jouer le le rôle de gens qui vont à l'église. C'est ta présence qui nous satisfait et rien d'autre. Garde-nous, fais que nous soyons humbles. Augmente l'amour qu'on a les uns pour les autres. Aide-nous à nous pardonner les uns aux autres, à demander le pardon. Au nom de Jésus. Amen.